On va revenir sur l'événement important que fut l'attaque israélienne à Doha et à laquelle s'est ajoutée l'initiative franco-saoudienne de reconnaître un État de Palestine. Analyse de l'impact de ces faits dans nos conversations avec Daniel Haber. Il est bien sûr, comme chaque fois, au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, on va parler de deux événements majeurs hein, de ces deux dernières semaines. Alors à l'événement important que fut l'attaque israélienne à Doha qui visait certains hauts responsables du Hamas s'est ajoutée ce lundi l'initiative franco-saoudienne de reconnaître un État de Palestine. On a vu ce fameux discours d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale de l'ONU. Alors quel impact ont eu ces deux événements sur la situation actuelle ?
Et en fait, on se pose encore la question de l'impact, et donc je vous propose qu'on l'analyse à partir de trois angles. La première, c'est ce qu'il y aura des conséquences concrètes, et en particulier sur l'annonce de l'État de Palestine. Pour l'instant, il n'y en a aucun. L'impression, c'est que l'initiative de Macron est une sorte de coup d'épée dans l'eau, et que, puisqu'on parle aussi de l'attaque sur Doha, bon, ça a manqué sa cible, hein, puisqu'on n'a pas réussi à tuer. Donc, au fond, il se passe rien. Cependant, tout n'est pas encore dit. Il faut toujours du temps pour que les choses se digèrent et il y a des conséquences géopolitiques, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et des conséquences peuvent apparaître. Alors, sur l'annonce de l'État de Palestine, ce qui est le plus à redouter, c'est une crise diplomatique sérieuse entre Israël et la France, et ça va beaucoup dépendre d'Israël. Est-ce qu'Israël va prendre des mesures fortes? On parlait d'annexion totale ou partielle de Judée-Samarie, on parle de fermeture du consulat, ce fameux consulat de France à Jérusalem, que je connais bien et qui est à côté de l'hôtel King David à Jérusalem-Ouest, mais tout proche de la vieille ville. Et donc évidemment, si Israël prenait des mesures fortes, Macron l'a déjà dit, il sera obligé de riposter, mais il prie qu'il n'y en ait pas. Donc ça va dépendre vraiment d'Israël. Du côté arabe, alors évidemment, ils se sont réjouis de l'annonce de Macron, mais ils savent bien que ça change rien sur le terrain. Par contre, sur le problème de l'attaque de Doha, là, on a vu les Arabes non seulement réagir, mais surréagir. Il y a eu ces deux réunions. Alors, l'attaque, c'était le 9 septembre. Les réunions à Doha ont eu lieu le 15 septembre. Tous les pays arabes et tous les pays musulmans du monde entier ont été convoqués. Alors ils ont évidemment, ils se sont tous mis, ils se sont tous unis pour condamner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'ils ont donné comme impression, c'est d'avoir peur d'Israël. On a vu la Turquie qui dit ça va bientôt être notre tour. Donc si vous voulez, ce petit pays qui est entouré de millions d'Arabes qui en veulent à sa vie apparaît tout à coup comme une espèce d'agresseur. Ils ont même parlé d'une volonté hégémonique d'Israël sur tout le Moyen-Orient. Bon, c'est un hommage qui est rendu de façon un petit peu indirecte à la puissance militaire d'Israël, à sa capacité d'avoir vaincu tous ses ennemis, donc c'est bien. Mais bon, on voit en fait le pire qu'on redoutait, mais ça peut arriver, hein, c'est l'abrogation des accords d'Abraham. Donc ça n'a pas été dit ce jour-là. Ça sera plutôt d'autres développements qui risquent de les provoquer, mais on n'en est pas là. Donc ça, c'est la première analyse. Au fond, tout ça n'a pas encore provoqué d'effets immédiats. Mais le deuxième critère, c'est sur l'avenir de la région, parce qu'on voudrait bien que cette région entre dans un processus de paix et de prospérité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui était intéressant dans l'annonce de Macron, c'est pas la reconnaissance de la Palestine, c'est ce fameux plan de paix, ce projet de plan de paix qu'il aurait élaboré avec les pays arabes, avec notamment l'Arabie Saoudite, dont il a donné quelques éléments le jour de sa déclaration à la tribune de l'ONU, mais le lendemain, il a fait une grande interview de 40 minutes sur une chaîne télé, où là, il a donné des précisions intéressantes, où il dit l'objectif, d'abord, c'est un plan de paix en trois étapes. Première étape, on fait un cessez-le-feu et on obtient tous les otages, tous, vivants et morts. La deuxième phase, c'est on désarme le Hamas, c'est-à-dire un groupement de pays autour de l'autorité palestinienne qui n'a pas d'autorité ni de puissance, mais on lui ajoute des troupes probablement de pays arabes, Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats, et ces braves gens entreraient dans Gaza, désarmeraient le Hamas et géreraient temporairement le territoire, et il a même ajouté qu'Israël aurait un droit de superviser tout ça, de donner son avis. Il ne serait pas partie prenante de la présence sur le terrain. Il évacuerait Gaza, Tsahal, mais il aurait son mot à dire dans l'organisation. Puis la troisième étape, ce serait cette fameuse reconstruction. Donc vous voyez, on voit qu'il y a des aspects dans ce plan de paix qui sont plutôt intéressants pour Israël. La première, c'est que ce plan est élaboré non seulement par la France, mais par l'Arabie Saoudite, qui apparaît comme un acteur majeur, on l'a dit à plusieurs reprises dans nos conversations, ainsi que d'autres pays arabes. On voit que Israël n'est pas exclu du processus, puisqu'il est intéressé au premier chef, et donc il pourra donner son avis et probablement dire oui ou non à certaines mesures. Et surtout, il a conclu, alors je ne sais pas si c'était le jour de l'Assemblée générale de l'ONU, mais si ce n'est pas le lendemain dans l'interview, mais il a dit ce plan, au fond, a besoin du soutien américain. Autrement dit, il va uniquement fonctionner que si Trump non seulement le soutient, mais le fait sien. C'est-à-dire, Trump adopterait ce plan, sachant que ce qui a manqué le jour de l'Assemblée générale, c'est la présence de l'Arabie Saoudite. Hein. MBS, le prince, non seulement n'est pas venu, il devait parler par vidéo, il a pas parlé par vidéo. Donc ça laisse un petit peu l'idée que tout ça n'est pas encore au point. Donc finalement, l'initiative de Macron, elle donne la main en fait à deux acteurs majeurs, les Américains. Il faut que Trump s'en mêle et il faut que l'Arabie Saoudite reste aux côtés de la France, sinon rien ne se passera. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'avenir régional, sur le développement d'avenir de ce qui se passe au Moyen-Orient. Le troisième contexte, alors lui aussi est lié à l'attaque de Doha, c'est finalement le Hamas est éliminé comme acteur et même comme partie à la négociation. Le message envoyé par Israël en attaquant le quartier général, même si ça manquait sa cible sur le plan militaire, il n'a pas manqué d'envoyer le vrai message. On en parlait la semaine dernière. Le vrai message, c'est le Qatar, c'est pas un médiateur neutre, on n'en veut pas. Il fait partie de l'espace hostile avec le Hamas, avec l'Iran. Il est trop lié, donc on n'en veut pas. Et ce qu'a ajouté Macron, c'est il faut que le Hamas disparaisse du scénario à court terme et à long terme. Ça, c'est peut-être le plus important. Et de la même façon, on élimine le Qatar de tout le jeu diplomatique d'avenir. C'est quelqu'un qui joue trop le double jeu. Et c'est aussi un message envoyé à tous ceux qui jouent le double jeu, notamment la Turquie. Hein, donc, seuls ceux qui sont clairs, ça c'est l'Arabie Saoudite et les pays qui ont signé les accords d'Abraham, qui peuvent rester. Voilà. Donc, si vous voulez, si on devait conclure ces deux événements majeurs, quel est leur impact, on dirait que on va voir comment ils vont se développer, et ils sont pas forcément négatifs pour Israël, finalement, ils peuvent être même positifs. Le vrai problème, en fait, c'est que tout ça manque peut-être, et surtout l'annonce par Macron, manque de réalisme. Tout est beau sur le papier, mais enfin, on sait que le Hamas ne se laissera pas faire. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite et les pays arabes qui entreraient dans Gaza risqueraient d'être attaqués. Donc c'est pour ça qu'ils vont continuer à hésiter. Comment obtenir un résultat positif après 80 ans d'échec? C'est pas Macron à lui tout seul qui va changer une situation déjà ancienne, figée et qui montre que finalement, ce sont les Arabes et surtout les Palestiniens qui n'ont pas voulu de la solution à deux États. Pourquoi la voudraient-ils aujourd'hui? Voilà. Et on sait aussi que les opinions publiques arabes sont extrêmement en colère, énervées par tout ce qui se passe. Voilà, voilà, c'est un petit peu l'analyse qu'on peut faire de ces deux événements.
Oui, Daniel, on arrive malheureusement à la fin de ces conversations. On aura évidemment l'occasion
Oui?
à partir de lundi matin de revenir sur les scénarios, hein, les scénarios les plus probables. De toute manière,
D'accord.
cette reconnaissance de l'État de Palestine va durer encore quelques semaines, quelques mois. Je vous propose donc qu'on se retrouve lundi matin pour de nouvelles conversations et puis on vous souhaite une très joyeuse nouvelle année.
Voilà, et bonne année à tous. Shana Tova.